Vous écoutez
RMC.
Comme un bruit d'explosion, l'éboulement d'un pan de falaise à Biarritz fait un mort et un disparu suspendu hier soir. Les recherches pour tenter de le retrouver vont reprendre ce matin. Plus de 50 millions de Français concernés par la vigilance rouge à la canicule, c'est du jamais vu. Les records se succèdent en lien avec cette vague de chaleur qui nous assomme et dont le pic pourrait être atteint ce jeudi. Et les questions encore nombreuses autour de la mort de Liana. L'autopsie du corps de la jeune adolescente n'a pas permis de déterminer avec certitude les causes de son décès.
La mort d'une plongeuse à Biarritz.
Prise au piège par l'éboulement d'une falaise dans la mer. Ça s'est passé hier soir à proximité d'une plage située au cœur de la ville. Un autre plongeur est lui toujours porté disparu ce matin. Grégoire Morelli.
Il est environ 20h hier soir lorsque Jean-Luc Machard-Lavigny, qui se trouvait sur la plage en face de la falaise, assiste à la scène.
On a entendu un énorme bruit, comme une sorte d'explosion on va dire. Et donc très vite on s'est retourné parce que ça a surpris un peu tout le monde. Et donc moi j'ai pu voir les derniers morceaux qui tombaient dans l'eau. C'était immense.
2000 mètres cubes de roche ensevelissent deux plongeurs qui se trouvaient en dessous. Gendarmes, hélicoptères et Zodiac sont alors déployés pour venir en aide aux victimes. Un troisième plongeur a miraculeusement pu en réchapper et être rapidement pris en charge par les secours. Mathieu Duhamel, sous-préfet de Bayonne.
La troisième personne qui est indemne physiquement était hors de la zone d'effondrement mais a été extrêmement choquée.
Dans la soirée, le corps d'une plongeuse a été retrouvé mais les opérations de recherche ont dû être stoppées car d'autres pans de la falaise pourrait encore s'effondrer. Le maire de Biarritz a pris un arrêté pour interdire l'accès, la baignade et la navigation dans un périmètre de 300 mètres autour de la plage.
Il est trop tôt pour dire si cet éboulement est en lien avec la vague de chaleur qui frappe le pays. On a connu hier la journée la plus chaude depuis le début des relevés en 1947, effaçant le précédent record datant de la veille. Pareil pour la nuit qui vient de s'écouler. Le réveil est difficile ce matin et la journée qui s'annonce comme étant le pic de cet épisode avec 72 départements en vigilance rouge devraient éprouver les organismes. Alors certains s'adaptent. Martin Bourdin, vous êtes en direct de Sacla ce matin pour RMC dans cette commune de l'Essonne en compagnie d'un garagiste contraint d'ouvrir avec 2 heures d'avance afin d'éviter les heures les plus chaudes de la journée.
Oui, ici, on a commencé à plonger la tête dans les moteurs dès les premières lueurs du jour. Tout le monde au travail à 6h du matin depuis 1h maintenant. Et il fait encore pas loin de 30 degrés dans l'atelier. Ça va évidemment continuer de grimper à cause notamment de ce toit en tôle qui transforme ce garage en cocotte minute dès que le soleil tape un peu trop fort. Hier après-midi, il a fait jusqu'à 49 degrés près des voitures. Je suis avec Thomas, c'est le patron de ce garage. Il est déjà en âge, le pauvre. Thomas, commençait plus tôt pour ne pas travailler l'après-midi. C'était obligatoire là pour vous et pour vos salariés.
C'était plus simple pour eux surtout, parce que avec cette chaleur-là dans l'atelier, c'est un four et c'est inhumain. Et malheureusement, on peut pas se permettre de fermer le garage on arrive en période de vacances, donc tout le monde veut sa voiture pour pouvoir partir en vacances. Donc c'était pour nous pas le choix que de faire comme ça.
C'est un four et en plus il y a des gros tenue vestimentaire qui est lourde à porter.
Malheureusement, ils sont obligés d'être avec leur tenue de travail, chaussures de sécurité, ils peuvent pas être en tongs. Donc ça fait de la chaleur en plus et malheureusement pour eux, oui, c'est très compliqué.
Vous parliez de la charge de travail, Thomas. C'est vrai que si je regarde là sur le parking du garage, il y a facilement une trentaine de voitures dessus. Faut faire réviser la voiture en prévision des vacances. Faut aussi venir faire réparer la clim. C'est l'une des grosses activités du garage en ce moment pour pouvoir évidemment rouler au frais.
Martin Bourdin en direct de Sacla ce matin dans l'Essonne pour RMC. Les conséquences, elles sont nombreuses de cette canicule avec des restrictions d'eau imposées dans le Val d'Oise, des TER suspendus en Nouvelle-Aquitaine de 10h à 18h. La bonne nouvelle, c'est que le courant est rétabli ce matin dans le sud Finistère. Après une longue interruption, jusqu'à 70 000 foyers ont été privés d'électricité. Les commerçants, Rachel Sadodine, n'ont pas été épargnés.
15 heures sans électricité. Patron d'un relais routier, Arnaud, n'avait jamais connu une coupure de courant aussi longue. Résultat, le restaurateur installé à Briec a perdu.
Les desserts, les yaourts, le fromage, la salade, le beurre, d'autres poulets, merguez et du rôti. À devoir jeter tout ça à la poubelle, ça fait mal au cœur.
Tout le contenu de ses réfrigérateurs et congélateurs pour un montant d'environ 3500 euros.
J'ai eu mon assurance, ils m'ont dû prendre des photos et fournir les factures des denrées pour être remboursées. Par contre, pour la perte d'exploitation, mon assureur m'a dit que je ne serais pas remboursé parce qu'il faut être fermé 3 jours d'affilée.
Et ce n'est pas le cas d'Arnaud, car même sans électricité, il a décidé de rester ouvert toute la journée d'hier pour ne pas laisser les chauffeurs routiers en proie à la canicule dans leur camion.
J'ai fait un petit café filtre, du gaz, j'ai pu mettre de l'eau à chauffer et puis ils ont pu aller au moins se laver et puis aller aux toilettes.
Solidaire, malgré la galère, comme Marie, son magasin de jouets situé à Douarnenez a lui aussi été privé d'électricité.
J'ai dit aux gens d'aller chercher du cash, sauf que les distributeurs étaient en panne. Donc, fais confiance aux gens. J'ai fait des crédits.
Chez Marie, le courant a été rétabli hier après-midi. l'après-midi et les clients sont revenus payer leur dû.
Et pour la première fois de l'année, deux départements, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres, ont basculé en danger très élevé de feux de forêt. RMC, il est 7h06, l'autopsie du corps de Liana n'a pas permis de déterminer avec certitude les causes de sa mort. Le principal suspect de cette affaire, Jérôme Barella, est désormais poursuivi pour meurtre et viol sur mineur. Dans ce dossier, la magistrate du parquet d'Auch, ciblée par une enquête administrative pour ne pas avoir pris en compte la plainte d'une jeune adolescente contre Jérôme Barella l'été dernier, s'estime victime d'une injustice. Devoir de réserve oblige. Elle ne peut pas s'exprimer publiquement, mais selon les informations de nos confrères de BFM TV, elle considère avoir fait tout ce qu'elle a pu, selon des échanges avec ses proches. Constance Bostoen.
La substitut du parquet d'Auch assure à ses proches que son sort est scellé. « J'aimerais crier haut et fort ma défense, expliquer dans quelles conditions nous travaillons », leur écrit-elle, alors que le rapport de l'inspection générale de la justice dresse des conclusions sévères à son égard. Entre, je cite, « une perte de temps » ou encore « une absence de prise en compte de l'urgence », son travail sur la plainte déposée par la petite Rosa en août dernier a été disséqué par les inspecteurs qui lui reprochent entre autres un manque de suivi de ce dossier. Si la magistrate concède avoir oublié de cocher la case « urgent » au moment d'envoyer le dossier aux gendarmes, elle vit la situation comme une injustice. « Je ne pouvais pas faire mieux », livre-t-elle dans ses messages. Le Conseil supérieur de la magistrature examinera ses fautes potentielles dans les prochaines semaines. En attendant, elle a l'interdiction de traiter les dossiers concernant des mineurs.
Au moins 32 morts et plus de 700 blessés au Venezuela, frappés par deux puissants séismes. L'état d'urgence est décrété. Plusieurs bâtiments se sont effondrés au cœur de la capitale, Caracas. Le Maroc et le Brésil, qualifiés en 16e de finale de la Coupe du Monde. Les Marocains se sont fait peur. Ils s'imposent finalement face à Haïti. 4-2. Ils poursuivent l'aventure. Deuxième de leur groupe derrière le Brésil qui écrase l'Écosse. À noter les qualifications également de l'Afrique du Sud. Du Mexique qui termine premier de sa phase de poule. La Suisse et le Canada sont également qualifiés avec la Bosnie assurée de finir dans les meilleurs troisièmes. Les Bleus, eux, se préparent à affronter la Norvège demain soir en quête de la première place du groupe I, sans Didier Deschamps parti aux obsèques de sa mère en France et Guy Stéphan qui va le remplacer sur le banc. L'adjoint de Didier Deschamps avec lequel il collabore depuis 17 ans maintenant, Florent Germain.
Oui, Guy Stéphan est le véritable bras droit de Didier Deschamps, actif lors des séances d'entraînement, fin tacticien, très pédagogue avec les joueurs. Le fidèle adjoint du sélectionneur a su se rendre indispensable, explique le défenseur Laurent Bonnard, qui a joué sous ses ordres à Marseille.
Ils ont créé avec Didier Deschamps une relation et un binôme qui fonctionne très bien, qui a une confiance absolue l'un en l'autre. La personnalité de Guy Stéphan va dans le sens d'être entraîneur adjoint et en même temps, Didier Deschamps, qui est oui, le numéro un, prend un peu plus la lumière, effectivement, mais ça lui va bien, c'est un binôme qui, en fait, chacun a trouvé sa place.
Ouais. Il n'y a pas de Didier Deschamps sans Stéphane, disait même récemment Kylian Mbappé. Le Ballon d'Or 1991, Jean-Pierre Papin, ne garde lui que de bons souvenirs de Stéphane quand celui-ci entraînait les Girondins de Bordeaux.
C'est quelqu'un qui est très apprécié du groupe, en général. C'est quelqu'un qui, footballistiquement parlant, connaît bien son job, tactiquement très à l'aise, à l'écoute des joueurs. Il y a quelques messages à faire passer. En général, ça se passe plutôt bien. Pour moi, c'est un des meilleurs coachs que j'ai jamais eu.
Guy Stéphane, un homme et ami de confiance pour Deschamps, avec qui il reste en contact permanent malgré cette parenthèse très douloureuse liée au décès de sa maman.
France-Norvège, ce sera demain 21h sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde.